20h, 21h.
Jacques Pradel sur RTL.
L'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'heure du crime, une émission préparée comme chaque jour par Justine Vigneault avec Émilien Vinet pour les archives sonores de la rédaction d'RTL. Et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette heure du crime consacrée aujourd'hui à un dossier terrible et révoltant. L'histoire d'un banal accident de voiture dans la forêt de Meudon qui se déroule le 28 février 1985. La conductrice rate un virage, le véhicule prend feu. Lorsque les secours arrivent, il est trop tard. Le passager a pu sortir à temps, lui, mais son épouse est restée prisonnière des flammes. La police va conclure à un accident de la route. Quelques mois plus tard, le doute pourtant va s'installer. Et s'il s'agissait en réalité d'un crime ? Après 14 ans d'une instruction diabolique et chaotique, le mari est condamné pour meurtre avec préméditation à la réclusion criminelle à perpétuité. Et là, on se pose une autre question. Et s'il s'agissait d'une erreur judiciaire? En tout cas, mon invité, l'académicien français Jean-Marie Rouard, en est persuadé. Il se bat depuis 20 ans maintenant pour obtenir la révision de ce procès. Et c'est avec lui que nous allons revenir en détail sur ce dossier incroyable. Bonsoir Jean-Marie Rouard.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation parce que c'est vrai, vous le savez, ce n'est pas une surprise pour vous. On vous associe beaucoup à l'affaire Omar Radat. Vous êtes battu comme un chien. Ça vous a coûté d'ailleurs cher dans tous les sens du terme, mais ça n'est pas le seul combat que vous menez pour une justice plus juste, si on ose employer le mot. Qu'est-ce qui fait que dans cette affaire Joussaume, puisque je n'ai pas donné le nom de cet homme qui est actuellement encore à notre connaissance incarcéré, puisqu'il a été condamné à perpétuité en 1998, qu'est-ce qui fait que l'affaire Joussaume vous a finalement presque contraint à prendre fait des causes pour cet homme?
Vous savez, c'est une histoire un peu plus ancienne. Parce que moi, je suis un écrivain, je suis un romancier. Et ma passion dominante, c'est la littérature, c'est écrire des livres. Mais, curieusement, parce que je suis peut-être un écrivain français et un écrivain marqué par le christianisme, un français est toujours marqué par les origines judéo-chrétiennes, il y a cette question de la justice qui est très préoccupante, parce que c'est étonnant de voir à quel point les écrivains, tout au long de l'histoire de France, n'ont pas cessé de s'engager dans des questions judiciaires. Alors, je prends des exemples qui m'écrasent.
Oui.
Voltaire et Zola, mais Victor Hugo, Mauriac sur la torture. Et c'est vrai que quand je suis devenu journaliste, il y a assez longtemps, mon premier article, ça a été sur l'affaire Gabrielle Ruffier, cette jeune femme qui s'était suicidée après avoir eu une liaison avec un de ses élèves. Et puis ensuite, je me suis attaqué aux compagnies pétrolières à travers un revendeur pétrolier qui s'appelait M. Boudourian. Et ce qui m'a intéressé dans le journal, justement, c'était cette possibilité formidable d'avoir de pouvoir défendre justement des gens injustement attaqués.
De porter la plume dans la plaie, comme le disait...
Et j'ai trouvé que c'était finalement...
Albert Londres.
Ce qui était le plus intéressant.
Ouais.
Parce que, on peut parler des inaugurations, des chrysanthèmes, des petites choses, des petites chroniques légères. Moi, je ne déteste pas non plus. Mais en même temps, ce qui me justifiait, ce qui m'habitait, ce qui me passionnait, au fond. Et même quand j'ai pris des coups, parce que dans l'affaire Omar Radat que vous avez évoquée, j'ai pris beaucoup de coups. Mais je suis passé devant un tribunal, ce qui n'est pas agréable, la 17e chambre, j'ai été condamné lourdement. Mais là, je me suis senti, si vous voulez, il y a quelque chose en vous, vous vous sentez investi vous avez une sorte de grâce. Vous avez une sorte de grâce et vous avez un courage que je ne pensais pas avoir, parce que finalement, je vous dis que c'est quand même... Ces questions de justice, c'est très important pour moi, mais le plus important, peut-être, c'est la littérature. Donc, malgré tout ça, et c'est au moment de l'affaire Omar Radat qu'une dame est venue me voir, qui était une visiteuse de prison, et qui, Edith Martinet, et qui m'a dit, voilà, il y a un cas épouvantable, un homme qui était condamné injustement. Et c'était au moment où je recevais, évidemment, après l'affaire Omar Radat, beaucoup de demandes de prisonniers qui me demandaient que je les aide. Et c'est pas mon métier, c'est pas mon... Je pouvais pas, j'étais vraiment assailli. Mais ça m'a paru, vraiment, cette affaire m'a paru tellement bizarre. Et surtout, c'est ce qui, comme dans l'affaire Omar Haddad, c'est-à-dire que j'ai vu une société un peu hypocrite qui essayait de régler ses comptes à travers la justice. Elle utilisait l'appareil judiciaire pour régler des comptes privés. Oui. Voilà. Et c'est ce qui m'a... parce que, au fond, pardon de m'abriter derrière un autre grand écrivain comme Mauriac, c'est vrai que cette société, à la fois... je suis à l'Académie française, donc j'en accepte les honneurs, et même je les recherche. Mais en même temps, cette société, je connais son hypocrisie, et je sais très bien qu'on ne peut pas avaler tout rond ses décisions, notamment en matière de justice.
Mais... en même temps, vous savez que la justice, en tout cas en France comme dans la plupart des pays du monde, a du mal à se regarder dans la glace et à admettre ses erreurs lorsqu'il y en a.
C'est même...
Le nombre, nombre de révisions de procès depuis la guerre
Dieu sait que
reste infime.
La justice en France est considérée dans le monde... La France est considérée comme le pays de la justice, le pays de la liberté. C'est extraordinaire. Et en même temps, s'il y a une critique qu'on pourrait faire à la justice française, qui est pleine de bonne volonté et a un idéal merveilleux, a été illustré dans ses principes par des gens extraordinaires, eh bien, c'est de ne pas vouloir se remettre en cause. Il y a eu tellement d'affaires, vraiment, dans lesquelles les révisions sont extrêmement rares et le système judiciaire est très lourd.
Alors, nous allons revenir en détail au cours de cette émission sur l'affaire Bruno Joussaume. Avant d'aller plus loin et avant la pause, je voudrais raconter à ceux qui nous écoutent et qui découvrent peut-être cette affaire ce soir, les circonstances tragiques dans lesquelles tout a commencé. Cette histoire est incroyable. C'est celle d'un jeune homme de 22 ans, Bruno Joussaume, qui épouse une riche héritière, Evelyne Laborde, 61 ans, une femme qui pourrait être sa mère. Trois mois plus tard, au soir du 28 février 1985, Evelyne et Bruno traversent le bois de Meudon à bord d'une vieille deux chevaux Citroën. C'est Evelyne qui conduit. Pourtant, cela fait 30 ans qu'elle n'a pas touché un volant. Soudain, c'est l'accident. La deux chevaux rate un virage, elle quitte la route, elle s'arrête à quelques centimètres d'un vieux chêne. Bruno sort de la voiture, il est indemne, à peine quelques égratignures. Au même moment, la voiture s'embrase, Evelyne, gênée par son embonpoint, reste prisonnière des flammes. Bruno ne réussit pas à ouvrir la portière qui est fermée de l'intérieur. Il bondit au milieu de la route, il arrête une auto-école qui passe, dont le conducteur constate qu'il est trop tard pour porter secours à la victime. Le brasier est trop important pour qu'on puisse même s'approcher du véhicule. Alerté par des témoins qui, eux aussi, ont vu les flammes de l'incendie, les pompiers arrivent quelques minutes plus tard. Ils ne peuvent que constater que la conductrice a été carbonisée. Ils mettront 7 minutes à éteindre l'incendie. La police locale procède aux premières constatations. L'inspecteur Jean-Louis Sayou du commissariat de Boulogne-Billancourt rend son rapport. Il conclut que la mort d'Evelyne Laborde, épouse Joussaume, est, je cite, due à la suite d'un accident de la circulation. La voiture est transportée jusqu'à la Fourrière de Boulogne, où elle n'est pas placée d'ailleurs sous scellé, et le corps d'Evelyne est conduit, selon l'usage, à l'Institut médico-légal de Paris, comme toujours dans le cas d'un accident. Il sera autopsié pour vérifier les causes du décès. Et l'examen médical confirmera que la cause de la mort est bien l'inhalation des gaz toxiques émanant de l'incendie de la voiture. La victime n'a été ni frappée, ni empoisonnée, ni étouffée avant l'incendie. Pas de traces d'alcool ou de drogue. Il reste à prévenir sa famille, ce que va faire l'inspecteur Sayou. Cette affaire aurait pu en rester là. Pourtant, quelques mois plus tard, Bruno Joussaume, le mari survivant, est mis en garde à vue. Un juge d'instruction l'inculpe alors de meurtre avec préméditation. Il est aussitôt incarcéré. Il restera en prison pendant 14 mois avant un procès qui verra sa condamnation à perpétuité. Voilà, une pause tout de suite dans cette émission et nous retrouvons Jean-Marie Rouard et nous ouvrons donc en détail ce dossier, le dossier de cette affaire qui a valu à cet homme de se retrouver broyé par l'institution judiciaire et qui se trouve toujours à notre connaissance incarcéré aujourd'hui.
20h-21h,
l'heure du crime.
Jacques Pradel sur RTL.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
L'affaire Joussaume, un mystère à perpétuité. Perpétuité, c'est la peine qu'a encouru donc Bruno Joussaume, accusé a posteriori, longtemps après les premières constatations, qui attribuait la mort de sa femme à un simple accident de la route, mais qui a été ensuite pris dans cet engrenage avec une accusation de meurtre avec préméditation, ce qui est très grave, bien sûr. Et d'ailleurs, on y reviendra quand on parlera avec Jean-Marie Rouard du procès. Le jury populaire est allé bien au-delà des réquisitions de l'avocat général qui avait demandé 20 ans. Et le jury est allé au-delà et a continué et a condamné cet homme donc à perpétuité. Alors Jean-Marie Rouard, donc, je rappelle que vous êtes le président du comité de soutien à Bruno Joussaume. Il faut dire qu'au fil des années, la cause est de plus en plus difficile à défendre parce que cet homme est totalement, on y reviendra, mais brisé. Par son incarcération et par son histoire. Je voudrais que vous me racontiez, au départ, l'histoire de ce couple improbable, avec cette énorme différence d'âge, qui lui sera reprochée d'ailleurs après, parce qu'on y verra évidemment l'intention d'un jeune homme qui veut profiter évidemment d'une femme beaucoup plus âgée pour capter son héritage. Quoi, hein, bon. Mais au début, ils se rencontrent comment ?
Oui, mais c'est peut-être justement là où la justice... Et à la main très lourde, à partir du moment où les gens ne sont pas, disons, dans un cas normal, où on se marie avec quelqu'un qui a 2 ans de différence d'âge, avec les mêmes fortunes. Il y a un côté moral dans la justice qui intervient, qui est bizarre. Parce que, après tout, ce sont des adultes consentants. Lui, en effet, a 30 ans de moins qu'elle. Mais elle, pour des raisons, d'ailleurs, d'héritage, ne souhaite pas que sa famille... hérite d'elle. Elle a un peu d'argent, elle a un fortin, une espèce de belle maison en Bretagne. Et donc, elle a décidé de s'associer, c'est une association, avec ce jeune garçon idéaliste.
Alors lui, il est beau garçon. Étudiant en philo, au départ. Il milite dans des associations humanitaires. Il veut sauver la planète, quoi.
Voilà, c'est un 68-art attardé, et qui, en effet, avec de belles intentions. Et elle aussi, il arrive à la convaincre, à la convertir, à ses idées idéalistes. Et d'ailleurs, franchement, s'il avait voulu se débarrasser d'elle... Il suffisait de l'emmener dans un de ces pays où il projetait d'aller, d'ailleurs. Oui, bon, ça aurait été beaucoup plus simple. Et donc, je crois qu'il y a cette association, ils s'entendent bien, et ils se disent, après tout, on va se marier, mais on va se marier, attention, il a l'autorisation de la tromper, d'avoir une vie amoureuse. Oui. C'est un accord... Un peu comme on en faisait au XVIIIe siècle.
Vous voyez, parce qu'elle, c'est une famille bourgeoise, très bourgeoise. Elle est très exubérante. C'est la cadette de la famille. Elle ne veut pas rentrer dans le cadre de cette famille bourgeoise.
N'est pas pauvre non plus. Ouais. C'est-à-dire que c'est une famille également bourgeoise. Ils sont, de ce point de vue-là, du même statut social. Ouais. Mais elle est séduite par lui. Et puis, elle se dit qu'elle va s'amuser. Et puis, le problème sexuel, disons, qui la trompe... Parce que il y a aussi cet aspect, c'est qu'elle est un peu grosse, elle est un peu forte.
Mais d'ailleurs, mais enfin, après tout, ce qui causera peut-être sa mort, parce qu'elle ne pourra pas, à cause de son embonpoint, sortir de la voiture.
Hein, voilà, et puis ensuite, la position de la voiture qui était vraiment penchée. Qui, en effet, c'est son embonpoint qui va la gêner. Mais en tout cas, on peut épouser des femmes qui sont un peu fortes. Vraiment, je ne vois pas en quoi la justice, immédiatement, s'est insurgée en disant comment c'est impossible d'avoir épousé. Et je crois que c'est la question de ce par-amour. Il n'y a pas que des mariages d'amour. Il y a aussi des mariages de raison où chacun se dit ça va être intéressant de se marier pour telle et telle. Qui ne sont pas des raisons forcément sentimentales.
Alors, eux, ils se sont rencontrés au cours de vacances en Bretagne avec ce fameux fortin qui va revenir beaucoup. Dans l'histoire, parce que il faut dire que, comme vous l'avez rappelé, Jean-Marie Rouard, elle ne veut pas que sa famille hérite de ses biens, et donc ils vont aller devant le notaire et ils vont faire ce qu'on appelle une donation au dernier vivant. Hein, c'est-à-dire que dans le couple, le dernier vivant hérite de l'ensemble des biens de son conjoint ou de sa conjointe. Et c'est ce qui va faire peut-être aussi que la famille de cette femme va se dire que ce garçon n'a rencontré et épousé en 1984 Evelyne que pour son argent, en fait.
Oui, parce que bizarrement, les poursuites ne vont commencer qu'à partir du moment où on va ouvrir le testament. Et si Evelyne Laborde avait voulu justement donner ce fortin à Bruno Jussaume, c'est parce qu'il y avait eu des problèmes, vous savez, dans toutes les familles, à chaque génération, quand il y a des morts, il y a des problèmes d'héritage qui pèsent très lourdement sur les rapports entre frères et sœurs. Bref, je crois que c'est une des raisons pour laquelle elle avait voulu se marier avec Bruno Jussaume, c'était pour lui donner ce fortin. Et c'est certain que immédiatement, sous le regard froid de la justice, ça apparaît en effet comme une arrière-pensée, disons, qui pourrait justifier un acte criminel.
Alors, ce qu'il faut, c'est aussi voir, parce que c'est ce que l'on peut faire quand on revient sur un dossier comme ça avec de nombreuses années plus tard, tout aurait pu se passer autrement parce qu'ils rêvaient de partir en Éthiopie, tous les deux. Bon, ce voyage n'a pas eu lieu parce qu'elle est tombée malade. Hein. Je crois qu'elle a eu une pneumonie au dernier moment, donc ce voyage ne s'est pas fait. On a annulé, et il décide à ce moment-là d'acheter une voiture, et il passe une petite annonce, là, deux chevaux, il l'achète par petite annonce, en fait. Et il va y avoir, là je reviens, l'accident, on a raconté les circonstances, au départ c'est un accident de la route, banal, triste mais banal, et il va y avoir, à cause de l'action de la famille, une contre-autopsie, c'est-à-dire qu'on va demander de vérifier vraiment si la cause de la mort a bien été identifiée par la première autopsie. Et là, il va y avoir un rebondissement. On va constater, lors de la deuxième autopsie, que Evelyne a une fracture au larynx. Et c'est sur ce détail-là que l'action judiciaire va s'engager avec l'idée qu'il s'agit peut-être d'un crime maquillé en accident. Et cette histoire de fracture du larynx aura son explication plus tard. C'est un médecin qui, voulant le médecin à la première autopsie, qui a causé cette fracture du larynx. Et on s'en apercevra, mais beaucoup trop tard, en fait. Donc voilà, une histoire difficile. On vous emmène dans les méandres de cette histoire parce que il faut comprendre le mécanisme implacable dans lequel cet homme s'est retrouvé. Maintenant, nous allons faire une pause rapide et ensuite on va prendre le temps, Jean-Marie Rouard, de raconter ce que l'on a constaté après l'accident, parce que il y avait dans cette voiture un bidon d'essence. Il y avait un certain nombre d'éléments qui ont pu, a posteriori, faire penser que l'accident n'était pas un accident, mais un crime maquillé. A tout de suite.
20h21,
l'heure du crime.
Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime sur RTL.
L'invité de l'heure du crime aujourd'hui, Jean-Marie Rouard de l'Académie française, qui préside toujours le comité de soutien à Bruno Jussaume, cet homme donc condamné à perpétuité pour avoir été soupçonné, accusé d'avoir tué en fait sa femme par le biais d'un crime maquillé en accident de la route. Alors, il faut dire que si on revient à ce 28 février 1985, il y a cet accident, l'affaire est classée, quoi, en fait, et à tel point d'ailleurs que Bruno Jussaume, après le décès d'Evelyne, va reprendre ses études et il va même se remarier.
Oui, alors évidemment, ce remariage va faire apparaître que finalement, il était le premier mariage avait été un mariage de convenance. Ce qui était vrai d'ailleurs, ce qui était vrai. Et il va épouser une jeune femme, il va avoir un enfant.
Voilà, il a déjà cette accusation sur la tête, mais rien ne se passe en fait.
Et il va avoir un enfant, et puis les choses vont relativement mal tourner, puisque au moment où il va être à la fois... poursuivi par sa belle famille de son premier mariage, eh bien, sa nouvelle épouse va aussi se retourner contre lui.
Voilà, mais sauf que, donc, 5 juges d'instruction vont se succéder dans cette affaire. On va vouloir, à ce moment-là, reprendre, évidemment, dans le cadre de cette instruction, quand même, qui dure extrêmement... Il n'y a pas d'acte d'instruction pendant des années, finalement, dans l'histoire. Il y a juste cette accusation qui pèse sur lui comme une épée de Damoclès, mais rien ne se passe. Et puis, un jour, on dit, maintenant, il faudrait retrouver l'épave de la Deux Chevaux. Non, elle a été détruite. On va demander une contre-autopsie. Non, parce que les pièces anatomiques ont disparu, tout simplement. Et il va pourtant être condamné à la prison à perpétuité en novembre 1998. Derrière tout cela, il y a quand même quelqu'un qui a joué un rôle terrible dans l'histoire. C'est sa deuxième épouse.
Oui, mais sa deuxième épouse qui, pour quelles sont les raisons, je pense que l'idée de pouvoir avoir la garde de son fils a sûrement joué un rôle, mais enfin, ça, son problème. Mais ce qui me frappe plutôt, ce sont les dysfonctionnements de la justice. Parce que cette justice, finalement, elle a laissé passer toutes les occasions de garder des preuves pour l'accusation. Tout a disparu. Et puis, d'un seul coup, on remet le procès sur la sellette. Et qu'est-ce qui reste ? Il reste simplement cette arrière-pensée morale de dire ce mariage disproportionné est forcément entaché d'une présomption de criminel. Voilà. Et c'est ça qui est affreux, c'est qu'au fond, la seule chose qui reste, c'est un préjugé moral. Et la justice va se construire autour de ce préjugé moral, sans aucun élément de preuve. C'est ça qui est épouvantable, c'est qu'on se dit, finalement, on a jugé en aveugle, puisqu'on n'avait aucun élément pour pouvoir étayer cette thèse. Ouais. Alors, quand on dit « le doute doit profiter à l'accusé », là, il n'y avait que des doutes.
Oui.
Alors, ça n'a pas profité.
Ouais. On va revenir sur les arguments qui militent pour l'innocence de Bruno. Mais auparavant, je voudrais simplement dire que à l'époque, il n'y a pas d'appel en cour d'assises. Les jugements sont définitifs. Alors, bien sûr, on peut faire un pourvoi en cassation, ce qui a été fait, mais sans succès. Le pourvoi en cassation a été rejeté en 1999. Après, il y a eu une action devant la Cour européenne de Strasbourg. Puis, il y a eu une demande de grâce qui a été rejetée en 2005. Une demande de révision en 2006 et rejetée pour absence de faits nouveaux. Alors qu'on est toujours sur les mêmes faits depuis le début. Alors reprenons les arguments qui militent pour l'innocence de Bruno. D'abord, il y a le constat policier au départ quand même, ça c'est incontestable. L'expertise de l'épave qui a été quand même très sommaire. L'attitude de la famille d'Evelyne. Il y a le fait, j'ai retrouvé toutes mes notes sur l'affaire, pas d'acte d'instruction entre 1986 et 1991. Et enfin, il y a le scénario de l'embrasement décrit par un expert, parce qu'il y a eu une contre-expertise, en fait. Un certain Philippe Mussy, lui, va dire « Mais l'accident s'explique parfaitement ». Alors, c'est là où il faudrait que vous nous rappeliez que disent les experts de l'accusation. Les experts voient effectivement un acte provoqué.
Oui, alors ils imaginent, les experts de l'accusation, que c'est Bruno Jussaume lui-même qui a mis le feu à l'aide de ce bidon d'essence qu'il avait emporté dans la voiture.
Alors il y avait effectivement un bidon d'essence sous le siège passager,
sous le siège
à l'avant.
Hein. Oui, et parce que c'était une voiture qui était une voiture d'occasion, qui manquait de carburant. Enfin bon, il y avait une raison. Bon. Ouais. Mais ce qui est très intéressant dans la contre-expertise à laquelle j'ai assisté dans le bois de Meudon, c'était de voir que moi, a priori, c'est vrai que l'idée que avec une perche ou comme ça, vous pouvez mettre facilement le feu à une deux chevaux, ça me paraissait évident. Et je me suis rendu compte, grâce à cet expert, que c'est extrêmement complexe de mettre le feu à une deux chevaux et que sans se brûler gravement soi-même. Donc, c'était très intéressant de voir à quel point cette expertise montrait et on voyait dans la position de la voiture accidentée qui était penché, on voyait la difficulté, disons, pour à la fois Bruno Jussaume de s'extraire de la voiture et pour Evelyne elle-même de pouvoir sortir également de la voiture. Donc, c'était quand on était sur les lieux de l'accident, on voyait à quel point, évidemment, c'était tout à fait plausible. Le scénario proposé par Bruno Jussaume était plausible.
Ouais. Alors, on va quand même entrer dans les détails, parce que Bruno Jussaume va faire valoir, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il y avait un élément qui avait pu contribuer à l'alimentation de l'incendie de la voiture, c'est que Evelyne était infirmière, je crois, elle avait une formation d'infirmière, bon. Et elle avait toujours avec elle une trousse dans laquelle il y avait de l'alcool. Et cette trousse, elle la mettait toujours sous son siège. Alors c'est vrai qu'elle conduisait peu, mais que quand elle montait dans une voiture, elle mettait toujours ce petit sac, en fait, contenant notamment de l'alcool, et que ça avait pu donc contribuer à la chose. Mais il y a un élément qui est très intéressant, c'est que il y a eu une émission de Christophe Ondelat, la fameuse émission « Fait entrer l'accusé », autour de l'affaire Jussaume. Et là, il y a eu une rafale de témoignages de propriétaires de deux chevaux racontant des accidents extrêmement comparables à ce qui s'était passé. Mais ça n'a bouleversé personne.
Oui, c'est vrai que la deux chevaux, qui est une voiture emblématique, c'est vrai que c'était toute une, presque une civilisation, la deux chevaux. Eh bien, c'est vrai qu'elle avait, et on le voit, parce que beaucoup de propriétaires ont pu se plaindre, eh bien, dans certaines circonstances, elle pouvait s'embraser. Elle pouvait s'embraser parce que le moteur, dans certaines circonstances, pouvait, justement, en cas d'accident, c'était une carrosserie très fragile. Et, puis, voilà.
Et la contre-expertise à laquelle vous avez assisté, donc dans le bois de Meudon, avec cet expert Philippe Mussy, démontrait que, parce que la voiture a chevauché une racine, le fameux arbre devant lequel elle s'est arrêtée, et l'expert expliquait comment des détails techniques, mais c'est important dans cette affaire, c'est même central, le chevauchement, je le cite, de la racine par la roue avant gauche a suffi à déconnecter la durite de la pompe à essence, l'incendie partant ainsi du côté gauche du véhicule, se développait ensuite pour prendre toute son extension en enflammant le bidon d'essence situé à droite sous le siège passager. Donc pour la contre-expertise, évidemment, les choses sont claires, ça ne peut être qu'un accident. Une pause tout de suite et nous revenons sur ce dossier incroyable dans un petit instant.
20h-21h,
l'heure du crime.
Jacques Pradel sur RTL. RTL aime la musique.
Des standards. Money, money,
mais aussi des nouveautés. We are from the north. We came from...
Et des découvertes.
On aime la musique sur RTL.
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 Première radio de France. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime, cette affaire, cet accident de voiture, tragique mais banal finalement, et quelques années plus tard, un homme accusé d'avoir en fait maquillé un crime en accident pour se débarrasser de sa femme et pour profiter de son héritage. L'homme s'appelle Bruno Jussaume, sa femme est morte dans l'incendie de la voiture à la suite donc de cet accident qu'on a décrit dans la forêt, dans le bois de Meudon en février. Donc 1985. Alors Jean-Marie Roir, qui est l'invité de cette émission, connaît ce dossier par cœur. C'est vrai que les problèmes techniques sont un peu rébarbatifs, mais je voudrais qu'on y reste encore un peu avant que vous nous parliez ensuite de la personnalité de Bruno Jussaume, qui est, ne l'oublions pas, incarcéré depuis toutes ces années et qui supporte très mal son incarcération. En 2010, donc il y a 8 ans presque maintenant, nous avions organisé une émission à laquelle vous aviez participé, Jean-Marie Rouard. Et à l'époque, Philippe Meillac, l'un des deux avocats de Bruno Jussaume, nous expliquait que cette thèse de l'accident parfaitement involontaire est vraiment recevable, contrairement au scénario retenu par l'accusation. Rappelons que le scénario retenu par l'accusation, c'était celui d'un acte criminel. Alors, écoutons cet avocat nous dire pourquoi, pour lui, cet accident était parfaitement explicable.
Très simplement, à la suite de cette dramatique condamnation, il y a eu une nouvelle expertise qui a été faite par un nouvel expert, j'ai envie de vous dire, qui
s'appelle Philippe Mussy.
Philippe Mussy. Lui, il a été dans son analyse et il a fait, comme l'a dit tout à l'heure M. Roir, une reconstitution sur les lieux. Il a mis en évidence
alors, son scénario.
Pour lui, c'est une cause électrique, c'est-à-dire que sur ce type de véhicule, il y a effectivement une défectuosité récurrente au niveau de la durite qui cause un certain nombre d'incendies.
Alors, il faut savoir de quoi on parle. La durite d'essence qui amène l'essence du réservoir à l'arrière vers l'avant est arrachée par le frottement de la voiture sur le talus. Exactement. À ce moment-là, l'essence se répand dans le moteur, l'essence s'enflamme au contact du collecteur d'échappement et la voiture s'embrase, d'autant plus que le bidon d'essence s'est ouvert dans l'accident et qu'il s'est répandu dans la voiture. Voilà l'explication.
La nouveauté est sur l'origine en relation avec le problème de durite. Et alors, j'ajouterai, ça me paraît essentiel, que chaque fois que cette affaire fait l'objet d'un reportage ou une émission, il y a aujourd'hui des quantités de témoignages spontanés de la part de personnes qui ont vécu rigoureusement la même histoire. Voilà. Donc, ce n'est pas un scénario qui est tombé, si j'ose dire, du ciel ou des extraterrestres. Voilà.
Alors, il faut dire que cette piste n'a jamais été exploitée. Ça n'a pas été retenu, Jean-Marie Rouard, par la justice comme un élément nouveau.
Non, parce que je crois qu'il y avait ce poids terrible, ce poids moral de se dire ce mariage est un mariage arrangé et il y avait de la part de Bruno Jussaube une arrière-pensée en épousant une femme avec une grande disparité d'âge et de fortune. Il y avait l'arrière-pensée de vouloir s'en débarrasser et d'hériter. Je crois que c'est ça le fond.
Comment vous expliquez-vous que le jury populaire soit allé bien au-delà des réquisitions de l'avocat général ? Parce que l'avocat général avait demandé 20 ans, on condamne à perpétuité. C'est quand même quelque chose de lourd.
Alors, très lourd. Faudrait revenir.
Est-ce que c'est la personnalité de Jussaume qui joue parce que je voudrais qu'on parle maintenant de la personnalité de cet homme.
Je crains qu'à la fois Jussaume, qui était quelqu'un de complètement dévasté par cette affaire, et on pourra en reparler, mais c'est surtout parce que le jury populaire. C'était très facile. C'est très facile quand vous avez justement ce contexte de disproportion devant un jury populaire. Les gens se disent mais c'est évident, il s'est marié avec elle, une
tout
femme qui était
logique,
gros,
quoi.
Tout devient logique. C'est ça qui est terrible, c'est ce poids. Ouais. Alors que on sait très bien qu'il y a des gens qui peuvent très bien avoir une grande disparité d'âge et s'entendre très très bien, ça n'a rien à voir. Bref. Mais seulement, ce qu'il faut voir, vous avez parlé d'épée de Damoclès, il faut voir que le personnage de Bruno Jussaume va être comme les héros de la tragédie grecque, entraîné dans une spirale de malheur absolument épouvantable. Et on a le sentiment presque d'une prédestination, de se dire, mais cet homme va être broyé par le système de la justice et disons, sa raison va vaciller. Parce que, et on peut le comprendre. Quand vous voyez que tout est pris à charge contre vous, quand vous voyez que tout devient... toutes les occasions d'accusation sont autour de vous, finalement, on se met à douter de la réalité et on se met à perdre un peu les pédales. Et c'est vrai que c'est un homme, moi, qui m'a énormément écrit, j'ai beaucoup de lettres de lui.
Vous n'avez pas voulu le rencontrer, ça c'était un choix, vous n'avez pas voulu aller le voir dans sa prison, il était longtemps incarcéré à Poissy, là où étaient à l'époque les longues peines, comme on dit, parce que vous vouliez conserver votre liberté, vous ne vouliez pas que le contact direct avec cet homme puisse vous faire accuser peut-être vous-même de le défendre par sympathie et non pas...
Oui, je crois que c'est... Enfin, dans toutes les affaires, ça a été la même chose pour Omar Radha. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir été le voir dans sa prison. Ouais. Mais j'avais peur, vous savez, d'être entraîné soit dans la sympathie pour la personne, soit dans l'antipathie. Ouais. Et c'est parce que j'ai un peu lu tout ce
que vous aviez dit dans une interview d'ailleurs à un journaliste qui vous posait la même question que celle que je viens de vous poser. En fait, Dreyfus n'était pas sympathique.
Voilà, donc, beaucoup de gens qui avaient rencontré Dreyfus disaient oh, ce qu'il est antipathique. Oui. Et je me disais, c'est vraiment horrible.
Et c'est
qu'une
pas la
cause
question.
Puisse être ramené à la personnalité sympathique ou antipathique. Ouais. Donc, je n'ai pas voulu aller le voir dans sa prison. Mais ce que j'ai pu apercevoir, ces lettres, c'était à quel point cet homme était dévasté et peu à peu rentré à la fois dans un mélange de la réalité et le songe se mêlaient. C'est un homme qui a été très abîmé psychologiquement, à la fois par la détention, ce qui, pour quelqu'un de son milieu, bon, il n'était pas du tout habitué. Puis c'était un homme... C'est un idéaliste, c'était un homme qui rêvait d'améliorer le monde et qui se trouvait dans la situation la pire qui soit pour un homme.
Oui. Finalement, il va en venir, si j'ai bien compris, à ne même plus faire confiance à ceux qui veulent le défendre.
Oui.
Et à ses avocats en particulier. C'est-à-dire que je crois que maître Jean-Marc Florent, il y a une dizaine d'années, voulait prendre fait. Il fait partie du comité de. Il a fait partie, en tout cas, du comité de soutien. Maître Meillac, dont on a parlé tout à l'heure, n'est plus non plus à même de défendre la cause de cet homme.
Vous savez, à partir d'un certain degré de malheur, et surtout quand on a une personnalité idéaliste et fragile, eh bien, on est mal avec soi-même et on se devient mal avec les autres. Et même avec ses, bien sûr avec ses avocats. Donc je pense que ce calvaire de cet homme s'est poursuivi même dans sa stratégie de défense et dans ses rapports avec les autres. C'est quelqu'un qui a des rapports difficiles parce que je pense qu'il a été cassé par cette affaire, cette injustice de départ, et qu'après, il est rentré dans une spirale de malheur qui fait qu'il a du mal à en sortir.
20h-21h,
l'heure du crime.
Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime sur RTL.
Je parlais, Jean-Marie Rouard, au début de cette émission, d'un dossier à la fois terrible et révoltant. Il est difficile d'avoir de toute façon une autre attitude par rapport à l'histoire maintenant qu'on l'a revisitée ensemble. En fait, ce que je retiens de ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas là pour dire Bruno Joussomme a maquillé le meurtre de sa femme en accident de voiture. On est là pour dire, en fait, le procès n'a pas pris en compte les doutes raisonnables qui auraient dû bénéficier à cet accusé. On dit toujours que le doute doit bénéficier à l'accusé. Vous n'êtes pas votre premier combat, on reparlera peut-être tout à l'heure de l'affaire Omar Radad, on est dans des cas de figure absolument inverses. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a des doutes partout, mais finalement, la fameuse intime conviction bousculer ces grands principes.
Oui, et ce qu'il y a d'étrange, c'est de voir que finalement, ce qu'il y a de plus fort, ce sont les préjugés moraux. Voilà, on est dans une société morale où finalement, il y a des archétypes. Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se vont pas. Et dès qu'on sort, dès qu'on rentre...
Le procès du Carlton de DSK, par exemple, pour prendre une affaire qui n'est pas une affaire de crime de sang, quoi. Éric Dupond-Moretti disait ce que vous dites là, en ce moment, en disant le tribunal n'a pas à juger de la moralité des gens qu'il doit les condamner sur des crimes, quoi.
C'est-à-dire
qu'on
préférerait que les gens soient de bons pères de famille, qu'ils s'occupent de leurs enfants, mais le fait est que il y a un certain nombre qui ne vivent pas de cette façon-là, qui font des partouzes et tout ça. Mais c'est peut-être pas à la justice de s'en mêler. Ben voilà. Parce que ça, ça rentre dans la vie privée. Ouais. Et déjà, Benjamin Constant, parlant de pédant, disait que l'État se contente d'être juste, nous nous chargeons d'être heureux. Oui, que l'État ne vienne pas nous embêter dans des gens qui ont une vie un peu marginale. Parce que si à partir du moment où vous mettez la loupe grossissante, si vous voulez, de la justice sur la vie privée, à ce moment-là, tout devient épouvantable. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, devant un tribunal, les moindres choses...
Et la justice peut devenir inhumaine.
Et la justice, à ce moment-là, devient complètement inhumaine.
Oui. Vous êtes amer sur cette histoire parce que il faut pas se leurrer quoi. Les chances sont infimes pour Bruno Joussaume de voir un jour réviser son procès.
Eh bien, c'est la grande lacune de la justice en France, c'est cette impossibilité de revenir sur ces décisions. Il y a des affaires dont je ne suis pas particulièrement occupé, comme l'affaire Missetienneau, oui. Mais ces gens qui avaient été torturés, qui avaient avoué le crime d'un garde-chasse sous la torture, eh bien, ils ont clamé leur innocence pendant 50 ans, et la justice, ils sont morts, et ils n'ont pas, on leur a pas donné, on n'a pas refait le procès. Oui. Ça, c'est vrai que c'est à mon avis, le grave problème de la justice. Mais en même temps, maintenant, c'est un peu différent dans la mesure où vous avez un double procès d'assises. Et voilà, ce double procès d'assises, il est venu, oui. Il est venu à cause de l'état de l'opinion, de la sensibilisation après l'affaire Omar Haddad. Et le seul à ne pas en avoir bénéficié, c'est Omar Haddad.
Oui. Alors justement, puisque vous parlez de l'affaire Omar Haddad, elle est loin d'être terminée parce qu'Omar Haddad, lui, depuis et maintenant il est en liberté depuis un très grand nombre d'années, il pourrait se contenter finalement de s'enterrer, d'arrêter de faire parler de lui, mais il veut toujours être réhabilité. C'est-à-dire que ça n'est pas la grâce partielle qu'il a eue ne l'intéresse pas. Et le dossier actuellement est toujours ouvert parce qu'il y a cette recherche d'ADN inconnu qu'on a retrouvé sur des éléments que tout le monde a entendu parler de la fameuse porte avec l'inscription Omar m'a tué qui est à l'origine de tout. On a trouvé des ADN qui ne sont pas l'ADN d'Omar Haddad.
Bien sûr. Et il n'est pas le seul. D'ailleurs, moi-même, qui était le président de son comité de défense, eh bien, je suis à fond pour qu'il y ait une révision du procès et qu'on arrive à innocenter Omar Haddad, parce que c'est bien évident que cette question de l'inscription qui a pesé si lourd, on voit bien maintenant avec l'ADN, les recherches d'ADN qui ont été faites, et Maître Novakovic, qui est son conseil...
Maître Novakovic, qu'on connaît bien ici à RTL,
grâce à sa persuasion...
Sa combativité
a réussi à montrer que, sur le chevron, qui était l'arme du crime, eh bien, il n'y avait pas la trace... d'Omar Haddad, et en revanche, il y avait des traces suspectes de quelqu'un même qui serait fiché au fichier de la grande criminalité.
Voilà.
Ce qu'on attend maintenant, c'est que la justice se réveille un peu, parce qu'elle tarde vraiment à se mettre en branle. Ouais. Autant elle a été pressée pour condamner Omar Haddad, maintenant qu'on voit bien que ce n'est pas Omar Haddad, pourquoi est-ce qu'elle ne se dépêche pas d'entamer la révision d'un procès qui a été inique, parce que ce procès, d'un bout à l'autre, il y a même la condamnation qui est invraisemblable. Il y a la condamnation à 18 ans de réclusion, avec les circonstances atténuantes. Moi, je peux vous dire, j'ai vu les photos du crime, les photos du corps de Mme Marchand.
La scène du corps de
Mme Marchand. Elle a été torturée, elle a été vraiment poinçonnée. Deux traumatismes crâniens, le foie perforé. Franchement, c'est un crime ignoble. Alors, les circonstances atténuantes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait un doute. Ça veut dire qu'il y avait un doute. Ouais. Et ce doute, eh bien, le président du tribunal a dû avoir un débat assez houleux avec les jurés, et il leur a dit, écoutez, on coupe la part en deux, 18 ans, avec les circonstances. Donc, rien que ça, ça suffirait pour dire, il y a eu un problème vraiment d'hésitation très grave, et il faudrait réviser ce procès.
Vous pensez, ce sera ma dernière question, Jean-Marie Rouard, vous pensez que, parce qu'on parle souvent de grandes réformes de la justice, ou des procès d'assises, que des procès d'assises avec comme acteurs uniquement des magistrats professionnels permettraient d'éviter plus souvent les erreurs judiciaires ou non?
Ça, c'est une grande question.
On en parle beaucoup,
qui s'était posée au moment de Vichy. Vichy voulait instaurer uniquement des magistrats professionnels. Bon. Vous savez, les deux...
À ce jury qui va plus loin que les réquisitions...
Oui, mais il y a toujours...
De l'avocat général.
Dans les jurys populaires, il y a toujours des magistrats. Donc, je crois que, étrangement, il y a eu des réformes où on a fait baisser le niveau intellectuel, social des jurés. Je pense que c'est extrêmement complexe. Moi, je crois que l'honnêteté, on ne va pas dire... les juges ne sont... Je crois que la trois quarts des juges, même beaucoup, la majorité des juges sont honnêtes. Oui. Bien sûr, ce n'est pas la question. Mais ils peuvent être pris dans des questions morales. Voilà, je crois que c'est ça qui est extrêmement complexe. Mais je pense, surtout, ce qui est important, c'est qu'ils puissent... Disons qu'il y ait des échelons qui permettent de se rattraper quand on commet une erreur. Et ça, c'est peut-être ce qui manque. C'est justement cette question si importante de la révision.
Merci infiniment, Jean-Marie Rouard. Je voudrais simplement dire que, à ceux qui nous écoutent que vous allez être notre invité au printemps parce que vous allez faire paraître un livre qui nous parle d'une affaire, alors d'une affaire qui a vraiment fait la une de l'actualité pendant des mois et des mois, la fameuse affaire des Ballets Roses. Le titre de votre prochain livre aux éditions Gallimard ?
La vérité sur la comtesse Berdaïev.
Eh bien, on vous retrouvera pour en savoir plus très bientôt. Merci à tous, l'émission est terminée, je vous donne rendez-vous, à demain.